Nous allons maintenant passer la parole à Alain Seba, qui va nous parler des discordances des temps dans quelques films de science-fiction, Babylone AD de Mathieu Kassovitz, Immortel de Bilal et L'origine du XXe siècle de Godard et d'Anne-Marie Miéville. Alain Seba est maître de conférence à Bordeaux 3 en littérature française, dont son domaine de recherche est l'adaptation littéraire au cinéma, et plus particulièrement sur les œuvres du siècle des Lumières. Il a co-dirigé un numéro d'Eidolon sur les fictions d'anticipation politique. Et la publication, en 2010 chez Duculot, des images du siècle des Lumières à la télévision. Et maintenant, nous avons droit encore à des images, ce qui est bien agréable.
Donc je vais vous faire passer des extraits de films. L'un est de Mathieu Kassovitz et date de 2008, c'est AD Babylone, et l'autre est d'Enki Bilal, il date de 2004, et c'est Immortel ad vitam. Voilà. Vous allez voir que les extraits que je vais vous passer sont en fait des analepses qui caractérisent un petit peu le film de Kassovitz, un petit peu moins le film de Enki Bilal. L'analepse retour en arrière, flashback, dans le film de Kassovitz est intérieure à la diégèse et donc englobe en fait l'ensemble du film. Tandis que lorsqu'on regarde les images du film d'Enki Bilal, on sort de la diégèse proprement dite et on va donc faire un tour du côté de l'histoire de l'humanité via le cinéma. Donc l'extrait que l'on vient de voir d'Immortel montre le personnage de Gilles en train de visiter un musée, ce qui peut éventuellement faire songer une citation du film de Hitchcock, Vertigo, où l'on voit aussi Madeleine venir dans un musée pour retrouver en quelque sorte son pseudo-passé. Alors, il se trouve donc que le temps, sujet de fiction particulièrement exploité à travers le thème de voyage de l'Odyssée d'Homère à celle de Kubrick, est aussi une obsession du cinéma qui se confond avec ses origines. Dans mon expérience de spectateur, car je ne suis qu'un spectateur de film, l'intérêt pour le traitement du temps par la SF a pris naissance avec La Jetée de Chris Marker et avec Vertigo d'Alfred Hitchcock. D'autres œuvres, telles celles de Tarkovsky, Le Sacrifice, ou son ouvrage Le Temps Scellé, montrent que la SF peut aborder la question du temps de façon intime, tout individu humain étant concerné, sinon fasciné, par sa propre fin. Je rappellerai ici accessoirement que Chris Marker a réalisé en 1999 un film sur Andrei Tarkovsky intitulé Une journée d'Andrei Arsenevitch. Le livret DVD de Jean-Luc Godard, de l'origine du XXIe siècle, montre que les documents historiques se trouvent dans nos mémoires, agglutinés à la fiction, aux histoires de cinéma. Si le film de Godard n'est pas une œuvre d'anticipation, il tire de ce XXe siècle un montage de documents filmiques qui nous alerte sur ce que pourrait être le XXIe siècle. Il me semble qu'ainsi, quelque chose comme une boucle se forme. Le déroulement d'un récit, on le sait, est influencé par sa fin. Or, dans mon approche ici de la science-fiction, c'est la fin pressentie de l'humanité qui entraîne une discordance des temps. Une représentation de catastrophe finale alimente nos peurs et le cinéma de science-fiction mise beaucoup sur le spectaculaire pour user simultanément de la fascination et de l'exorcisme. Mais les films auxquels je vais me référer parlent moins d'apocalypse que de renaissance, de cycle de vie, de retour au point de départ, de nostos. On l'a vu dans l'extrait de AD Babylone. Dans AD Babylone de Kassovitz, le héros, Tour Europe, qui fait penser éventuellement, phonétiquement au moins, à Tour Opérateur, veut revenir à New York, dont il a été banni, tandis que dans Immortel ad vitam, le dieu Horus, arrivé à la fin de son existence immortelle, ne songe qu'à féconder une jeune femme non humaine, Jill, pour renaître à travers sa descendance, et que, dans le même film, John, ayant terminé sa course millénaire de galaxie en galaxie, s'est chargé de protéger cette même Jill apparue 3 mois plus tôt dans une zone de Central Park appelée zone d'intrusion, inexplicablement inaccessible aux humains. D'une façon générale, les dieux et les hommes semblent souffrir d'une inadaptation au temps, peut-être même de dyschronie. Dans les deux films dont nous avons vu les extraits, les personnages centraux, en l'occurrence Turop dans AD Babylone et John dans Immortel, sont à la fois des voyageurs et des passeurs. Le premier, Turop, aidera Aurora, une femme qui est une création de l'homme mais qui n'est pas une créature humaine, à accomplir sa destinée et à rejoindre son père. Le second, John, aidera Jill, une non-humaine, à devenir définitivement humaine. L'une comme l'autre donneront naissance à des jumeaux. L'un des jumeaux de Jill, fécondé par Horus, sera un très joli faucon au plumage bleuté. Dans une première partie, je vais considérer de manière assez large la question des jeux avec le temps dans le cinéma de science-fiction, quand il est confronté à la fin des temps, ou si l'on préfère à l'apocalypse, pour aborder dans un deuxième temps la question plus particulière de la naissance ou de la renaissance. La question des jeux avec le temps a été étudiée en particulier par Sandrine Torres dans Les temps recomposés du film de science-fiction, et elle conclut que le cinéma de science-fiction ne s'éloigne pas des caractéristiques propres à tout récit qui exploite le thème du voyage dans le temps. Pour aborder la discordance des temps dans le cinéma de science-fiction, il faut considérer les choses à partir de la fin, de façon simpliste, disons que 4 cas se présentent. Dans le premier cas, on suit le déroulement du temps jusqu'à l'apocalypse. La fin des temps coïncide alors plus ou moins avec la fin du film. Prédiction d'Alex Proyas en 2008 montre le spectacle de l'anéantissement, j'insiste sur le mot spectacle. Mais, dit justement Jean-Pierre Audrevon, aucun récit ne serait envisageable sans les survivants. L'anéantissement n'est donc jamais vraiment total. Des films comme Cloverfield ou Rec proposent des solutions à la marge. Dans le second cas, le film situe la diégèse bien au-delà de l'apocalypse, ou bien le personnage principal se retrouve dès le début dans une période postérieure à l'apocalypse, après un voyage dans le temps, la planète des singes de Schaffner en 1968, ou bien le spectateur l'accompagne à la faveur d'un saut vers le futur, assorti d'une ellipse considérable au sein du récit, voire la fin de Intelligence artificielle de Steven Spielberg en 2001. Dans le troisième cas, le film montre un monde qui finit, ce qui est différent de la fin du monde, Armageddon par exemple, Le jour d'après, La route, 2012. Peu différent du précédent, le dernier quatrième cas raconte que l'apocalypse n'a pas encore eu lieu, mais son approche se manifeste par des signes. La guerre est partout, à des Babylones, de Matthew Kassovitz donc, ou bien les hommes sont une espèce en voie de disparition car les femmes n'enfantent plus, les fils de l'homme. Mais comme dans tout récit portant sur une fin humaine, le temps s'accélère, il est compté et la précarité envahit toute l'existence. Les films sur l'apocalypse sont inséparables d'un resserrement du temps et de l'espace qu'on peut regarder comme figure de l'angoisse, non sans rapport avec le genre du thriller. La fin des fils de l'homme raconte une fuite hors d'un espace concentrationnaire pour une hypothétique terre promise. The Truman Show, 1998 de Peter Weir, ou Dark City, toujours 1998 d'Alex Proyas, montrent des héros qui cherchent à s'évader d'un monde qui a été transformé pour mieux les assujettir. Mais il y a bien d'autres exemples, THX 1138 par exemple, de George Lucas en 1970, ou The Island de Michael Bay en 2005. Ce n'est qu'in extremis qu'apparaît une tonalité positive Elle se présente sous la forme d'une naissance qui constitue, par exemple, la fin d'immortel ad vitam, d'Akiblal ou d'Adé Babylon. Dans presque tous les cas, l'après est très souvent envisagé en rapport avec un enfant qui survivra, la présence de l'enfant étant déjà dans les dernières images de 2001, l'Odyssée de l'espace. Innocence préservée de l'horreur de la fin des temps, c'est lui, l'enfant, qui est au cœur des scénarios apocalyptiques. Dans le film d'Andrei Tarkovsky, Sacrifice, qui n'est pas un film de science-fiction, mais qui se sert de la SF pour dire l'angoisse devant la mort, c'est un petit garçon qui se nomme tout bêtement Petit Garçon qui occupe le cœur du film. Dans les films Terminator, donc je continue sur le jeu avec le temps, le jeu avec le temps est au fondement de la fiction. Chaque film raconte comment les machines vont venir du futur, Terminator 1 de James Cameron en 1984, ou Envoi vers le futur, Terminator Renaissance de Mac G en 2009, un robot qui a l'apparence d'un homme, qui sous l'apparence d'un homme, est chargé d'empêcher la naissance de John Connor et de supprimer ainsi toute espoir de résister à l'anéantissement de l'homme par les machines. Maîtriser la matière du temps devient le moyen de résister à la destruction de l'espace. Le récit de l'Apocalypse porte en lui-même fin et renaissance grâce à la figure eschatologique de l'enfant. Dans la perspective rétrospective de la fin des temps, l'Apocalypse serait le point temporel ultime, mais surtout nécessaire, autour duquel s'organise la fiction cinématographique. La mise en perspective peut prendre appui sur des données scientifiques. On le voit dans le pré-générique du film de Michael Bay, Armageddon, où les données scientifiques sont intégrées à un spectacle apocalyptique. Après avoir montré une émission sur la fin des dinosaures, le film nous introduit aux technologies avancées ultra-contemporaines dans la mythologie de la science, avec son efficacité, sa rigueur, sa froideur. Manque donc l'émotion, et l'émotion, c'est le spectaculaire qui tire le spectateur hors des considérations scientifiques, le replace au sein de la fiction et du même coup dans l'humain. Car contrairement au récit de la disparition des dinosaures, l'épisode de la disparition brutale de la navette Atlantis, donc dans le film de Michael Bay, permet à chacun de mesurer la dimension de l'univers au regard de la dimension humaine. Ainsi retrouve-t-on l'inquiétude métaphysique quasi pascalienne. Dans un autre épisode d'Armageddon, Michael Bay ou Roland Emmerich dans The Day After Tomorrow, qui date de 2005, fait ressentir la dimension humaine au cœur de la fiction en utilisant la fiction apocalyptique, en utilisant un effet inverse. L'accent mis sur un détail apparemment grotesque mais quotidien, la présence attendrissante d'un homme et de son chien, qui rappelle un autre film, Apocalypse 2024, c'était le titre en français, le retour d'une dimension familière au cœur d'un événement aux dimensions extraordinaires est un autre marqueur de la discordance des temps et participe de l'inquiétante étrangeté. Le début de la guerre des mondes de Spielberg en 2005, où un père immature se trouve brutalement confronté à l'invasion martienne, le faire toucher du doigt, c'est question de la discordance. Certes, le début de la guerre des mondes renvoie à la disproportion entre les faibles ressources psychologiques d'un homme et le caractère sidéral de l'événement, mais il renvoie aussi aux échelles de temps. Il y a le temps dont un homme dispose pour agir dans sa sphère et ce qui se joue à l'échelle de l'univers. Dans le film de Mathieu Kassovitz, la science apparaît sous diverses formes. Dans les paroles des personnages sur le développement des techniques de clonage, dans les scènes montrant ici les surcapacités médicales utilisées pour explorer le cerveau humain, là l'utilisation des drones dans la poursuite des fugitifs. Tout ceci accompagne, précède ou suit l'action, toujours de façon spectaculaire, et utilise autant le bain de technologie dans lequel vit le spectateur moyen actuel que les stéréotypes chers aux films d'espionnage à la James Bond. Dans Immortel ad vitam, les techniques de congélation qui maintiennent les individus dangereux en état d'hibernation prolongée se veulent un substitut de la prison. Leur détérioration permettra au héros Nicopol de renaître à la vie. Plus discrètement, la science est présente au détour d'une affiche que croise l'héroïne Jean, et sur laquelle le spectateur lira le nom de Tycho Brahe. Bien évidemment, les personnages importants de l'histoire sont souvent des médecins qui réunissent en un seul individu le génie du docteur Frankenstein et des cicatrices de sa créature. Tel est le docteur Barcandier, qu'on a vu tout à l'heure, incarné par Robert Wilson dans Babylone. certains acteurs, en l'occurrence une actrice, réapparaissant d'un film à l'autre pour y instaurer un dialogue entre les œuvres, est un dialogue qui n'est pas dépourvu d'humour. Charlotte Rampling joue un rôle de scientifique dans les deux films. Dans l'un, elle assure celui de la résistante au régime en place, et dans l'autre, celui de dirigeante autoritaire et impitoyable d'une secte religieuse. Cette perspective rétrospective est communiquée aux spectateurs pour lui permettre une reconfiguration de la fiction. Il se trouve projeté dans un futur proche et vraisemblable à partir d'éléments hétéroclites et stéréotypés qu'il a en mémoire et se débrouille comme il peut avec des temps recomposés et des éléments de savoir hétéroclites. Dans AD Babylone, par exemple, les réfugiés qui veulent regagner l'Alaska doivent embarquer dans un sous-marin nucléaire ayant appartenu à l'ex-Union soviétique. Le sous-marin surgit soudainement et pour quelques brefs instants d'une surface gelée, rendue chaque année plus fragile à cause du réchauffement climatique et menace de s'effondrer sous le poids de la masse des candidats à l'exil. À la surveillance ultra sophistiquée des sous-marins par les satellites s'opposent les rudimentaires filets en corde que les marins utilisent pour hisser à bord les réfugiés qui d'ailleurs s'entretuent pour avoir une place. Le maniement des foules rend la scène spectaculaire. En fait, l'articulation entre les temps, tant lointains, voire antédiluviens, tant de l'apocalypse et tant actuel, entre science et fiction, ne peut pas se passer de spectaculaire. Il y a donc un rapport métaphysique pascalien entre plusieurs échelles de temps, celui d'un homme et celui de l'univers, et ce rapport métaphysique se retrouve à l'intérieur même des bornes qui marquent la vie d'un homme, la naissance et la mort. Donc je passe à la deuxième partie, il n'y en aura que deux, la question de la renaissance. La jetée dont Michel Chion dit qu'il est peut-être le plus grand film de science-fiction de cinéma français et que Chris Marker présente modestement comme photoroman. Je cite Chris Marker, « Mais, idiot, le cinéma, c'est des images qui bougent. » Commence par la mort d'un homme vu par un enfant, et on en a parlé hier, et se place donc dans la perspective de l'après. Mais c'est aussi un film dans lequel le héros, cherchant à reconstituer le temps perdu d'avant l'apocalypse, revit par fragments un passé recomposé par sa mémoire sous l'influence de drogues qui lui sont injectées. Il parvient à naître une seconde fois adulte pour finalement voir sa propre mort en restant définitivement cette fois prisonnier du temps. De la jetée à l'intelligence artificielle, l'événement raconté est associé à l'apocalypse et à la mort individuelle. Il occasionne en même temps une réflexion sur l'image, comme si la mort devenait un moment fixé par le regard et prenait la forme d'une image. Dans le film de Mathieu Kassovitz, et en particulier dans le passage que nous avons vu avant le début de cette communication, le docteur Darcandier cherche à retrouver l'image perdue partout au rock au moment de sa mort. Le film use métaphoriquement d'un instrument que les spectateurs connaissent très bien et qui leur sert pour retrouver une image sur un disque DVD ou sur une cassette vidéo, rembobinage ou avance rapide. Le retour en arrière permet de raconter l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, la guerre des Balkans, l'attentat des Twin Towers, etc., sous la forme d'un montage bout à bout de quelques photogrammes. Ainsi, l'exploration de la mémoire du héros est assimilée à un regard intérieur que l'on scruterait. Mais le mode accéléré risque de remonter trop loin, de façon inquiétante, au-delà de l'enfance, de la naissance peut-être. C'est donc sous la forme d'une manipulation de l'image du cinéma que les mémoires apparaissent dès lors qu'il s'agit de remonter le courant de l'histoire. Or, c'est à peu près la façon dont Jean-Luc Godard procède en montant son film à rebours et en revenant au passé du XXe siècle, 1990-1975, avec un passage par Shining de Kubrick en 1980-1960, avec un extrait d'un bout de souffle et le gros plan de Gene Seberg demandant « Qu'est-ce que c'est dégueulasse ?» 1945, avec un extrait de « Sierra d'Éternel » de Malraux, 1960-1945, 1930, avec « Renoir et la règle du jeu » et le passage de la danse macabre de Saint-Saëns dans ce film. 1930-1915, peut-être Intolérance de Griffith, la révolution bolchevique, le Goulag, 1915-1900, un épisode de French Cancan et une voix off qui dit « Mon cher, mais mon cher, le bonheur n'est pas gai ». Le film de Godard et Anne-Marie Niéville est paru en 2006 avant celui de Kassovitz qui date de 2008. Je crois qu'il y a un rapport, enfin, je crois qu'il faut voir un rapport entre le montage de l'un et le montage de l'autre. Dans le film de Kassovitz, le cinéma remonte le temps de l'histoire. On remarquera que si tout le monde rit lorsque l'accéléré montre les personnages qui s'agitent de manière qui paraît soudain désordonnée, en revanche, remonter le temps et reconstituer de cette manière l'action de l'histoire surprend ou inquiète. Le premier film à avoir été traité de la, sorte est une vue des frères Lumière intitulée « La démolition du mur ». La remontée du temps, c'est ce que Chris Marker dans La jetée et aussi dans Son soleil dit, la remontée du temps débouche sur le néant. Dans le film de Kassovitz, toujours pour retrouver la vérité, c'est-à-dire les images où Aurora prononce les mots qui permettront de la retrouver, « go home », on retrouve le nostos, il faut au contraire ralentir le temps qui s'écoule alors normalement. Le temps intime nécessite la lenteur de l'introspection, la lenteur de l'analyse et peut-être le bon ordre. Le film Immortel ad vitem montre un monde futuriste qui peut rappeler Metropolis de Fritz Lang, Blade Runner de Ridley Scott ou Le cinquième élément de Luc Besson. Mais il présente surtout une nature hybride qui suscite un dialogue entre les arts. Outre que le personnage de Nicopol récite des vers de Baudelaire, la singularité du film est liée à son auteur, Anki Bilal, qui tire en effet ses personnages et ses décors de son œuvre graphique, ce qui le lie au cinéma d'animation. Dans le film de Bilal, la pyramide qui s'est installée dans le ciel de New York ne peut pas ne pas faire songer à la cité de Laputa imaginée par Swift et dont Miyazaki a tiré en 1986 le château dans le ciel. Le film de Bilal est l'exemple d'une hybridation réussie. Le film de Mathieu Kassovitz revisite le mythe de l'immaculée conception tout en questionnant la conception. Non seulement le père et la mère d'Aurora revendiquent chacun de son côté la création de leur fille, mais Aurora, à la fin du film, va donner naissance à des jumeaux sans avoir jamais connu un homme. Et elle est programmée pour mourir aussitôt après. On ne peut qu'être troublé d'apprendre que Kassovitz a dédié le film à ses filles. La discordance des temps reflète l'interrogation sur la vie humaine, sur l'histoire humaine en général, autant que sur notre rapport au temps. Le cinéma de science-fiction cherche à aborder à travers des égos expérimentaux, pour reprendre l'expression de Milan Kundera, quelques mystères sur l'origine et la fin. Le temps est la condition d'existence de notre moi, dit Tarkovsky. Les films de Tarkovsky, Bilal, Kassovitz, Godard parlent de retour au passé, d'un retour dans une patrie qui rendrait possible un autre avenir, un avenir exorcisé, exempt de malheur et d'apocalypse. Godard commence ironiquement son film en présentant l'image d'une petite route de campagne printanière bordée d'un paysage enchanteur aux couleurs saturées, un paysage bercé par la musique que joue un violoniste en culotte courte et aux marches militaires dépassées par une charmante cycliste qui lui demande avec un air enjoué « Alors Ludovic, vous allez à la guerre ?» C'est une anticipation. Godard, dans sa recherche du XXIe siècle, va rencontrer l'horreur d'un siècle perdu d'horreur. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre et tant de gens mourir si bien. Puisque nous avons déjà, avec ces images du XXe siècle, l'apocalypse devant nos yeux, il faut regarder l'image du cinéma de SF comme une image pleine d'attente qui est le nôtre. L'histoire est là, elle est collée aux films de science-fiction et de ces trop belles apocalypses. Entrer dans le cinéma de science-fiction, serait-ce comme le font les personnages de Matrix, être invité à connaître l'envers de l'illusion.